ne marche pas encore. Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Nous sommes sur la terrasse d'un bistrot parce qu'on est toujours sous Covid-19. Et je vais interviewer Anne Steiner pour son livre Révolutionnaire et Dandy qui est paru dernièrement à l'échappée, enfin qui sort en fait samedi en librairie. Et il va y avoir un événement autour de la sortie de ce livre dont elle vous parlera. Et donc voilà, nous avons une heure, nous allons passer une heure sur un anarchiste. Et je passe la parole à Anne Steiner.
Donc bonjour. Il s'agit d'un ouvrage biographique que j'ai consacré à une personnalité que j'avais beaucoup croisée lors de l'écriture de mes précédents ouvrages, consacré à l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement anarchiste à la Belle Époque, dans ce qui est convenu d'appeler la Belle Époque, disons entre 1900 et 1914. Et c'était une figure importante et aussi fascinante, en partie à cause de ses ambiguïtés, mais qui lui ont valu beaucoup d'ennemis, mais qui justement font aussi tout l'intérêt de ce personnage qui n'est pas lisse. Alors, il est surtout connu pour avoir donné naissance, pour être le père de Jean Vigo, le cinéaste Jean Vigo, qui d'ailleurs, dont l'œuvre puise aussi dans cet héritage anarchiste, avant de devenir socialiste, de son père, dont il était très proche et dont il a été séparé brutalement par la mort précoce. L'emprisonnement et la mort précoce de son père qui avait tout juste 34 ans, Jean en avait 12. Donc j'adopte un plan un peu linéaire pour évoquer ce personnage. Je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas l'homme si on ne comprend pas l'enfant, si on ne sait rien de l'enfant. Il naît à Béziers en 1883, d'un très jeune couple. Ils ont à peine 20 ans, sa mère a moins de 20 ans, son père a tout juste 20 ans. Et comme beaucoup de jeunes qui sont en situation d'exode, alors d'exode rural pour le père qui est le fils d'une vieille famille paysanne de Cerdagne et qui est placé comme employé de commerce à Béziers, et de sa mère qui a été, comme beaucoup de femmes, un peu couturière, un peu blanchisseuse, et qui donc est venue gagner sa vie à Béziers. Ils se plaisent, ils s'aiment, ils se mettent en couple. Je rappelle qu'à cette époque, 25% des enfants naissaient hors mariage, donc ça n'a rien de singulier. De toute façon, les parents, il fallait l'autorisation des parents jusqu'à 25 ans. Ils étaient en général réticents, surtout les paysans, à la donner. Et les jeunes se mettaient en couple sans l'autorisation parentale. Dans le cas du petit Eugène Vigo, ça a été un peu tragique parce que son père est mort 2 ans et demi après sa naissance. Il l'avait reconnu, il lui avait donné son nom et même son deuxième prénom, le très beau prénom de Bonaventure, qui circulait dans la famille depuis plusieurs générations. Mais la famille paternelle n'a pas voulu du tout s'intéresser à l'enfant. Et après la mort du père, il a été de toute façon complètement rejeté. Ils n'ont d'ailleurs jamais vu. Il a été dépossédé de l'héritage auquel il aurait eu droit. Et sa mère a eu beaucoup de mal à l'élever. Du coup, il a eu une enfance très erratique, placée un jour ici, un jour ailleurs, très peu scolarisée. Ce qui fait que lorsque sa mère se met en couple avec un très jeune homme...
Mais on peut dire aussi que sa mère est hostile avec lui.
Plus tard, un peu plus tard, oui. Enfin là, elle n'est pas vraiment hostile puisqu'elle ne s'en occupe pas.
Elle le laisse à ses parents, elle.
À un moment, elle le laisse à ses parents et là, il n'a pas été trop malheureux. Mais avant qu'il aille chez ses grands-parents, il a eu une vie dure parce qu'il était un peu malvenu partout où elle le plaçait. Elle se met en couple avec un jeune photographe, Gabriel Aubès, qui est une personne remarquable, absolument remarquable, qui d'ailleurs va élever ensuite le petit Jean Vigo.
À Paris, donc.
Oui. Alors Gabriel, non, il s'installe à Bordeaux et elle fait venir son fils. On a l'impression que c'est ce jeune homme, pourtant qui n'a que 12 ans de plus que l'enfant, qui lui dit « fais venir ton enfant ». Il a l'intention d'en faire un photographe, lui-même est photographe, et en fait, il découvre un enfant quasiment analphabète, donc c'est un peu catastrophique. Il veut le mettre à l'école, il a 11 ans, le petit a 11 ans, Eugène Vigo a 11 ans, il est très rétif, il a déjà quand même une tête de lard, et il ne veut pas aller à l'école, et finalement, il entreprend de l'éduquer lui-même, et avec des outils pédagogiques un peu neufs, un peu audacieux, car ce Gabriel Aubès est de sensibilité libertaire, donc il s'intéresse aussi à la pédagogie libertaire, et il arrive à lui donner quand même le goût de la lecture et de l'étude en moins d'un an, comme quoi on passe beaucoup de temps à l'école pour pas grand-chose, et il monte à Paris, l'enfant a 12 ans, il le place chez un photographe comme apprenti, et en même temps, il est inscrit dans des cours du soir. Alors, la vie pourrait être assez heureuse pour Eugène Vigo, mais ce n'est pas le cas, car sa mère est très hostile à son égard, méchante même, c'est un enfant malheureux qui fuit le domicile familial le plus souvent possible. Il fait de nombreuses fugues, dont une qui l'emmène très loin sur les routes, et il reste plusieurs mois sans donner de nouvelles à ses parents. Alors, quand il revient, son jeune beau-père décide de l'emmener dans sa famille à lui, à Sète, qui est une assez extraordinaire famille. Ce sont des tailleurs qui sont... Alors, ils sont très républicains. On est en pleine affaire Dreyfus, hein, en 1899, donc ils sont clairement du côté de la République, mais avec des idées très avancées, plutôt socialistes, matinées d'anarchisme. Ils sont libres penseurs, anticléricaux. Et ils vont s'occuper de ce jeune garçon avec beaucoup de sympathie et le nourrir politiquement. Enfin, ce séjour d'un an à l'âge de 15 ans dans cette assez merveilleuse famille explique beaucoup de son cheminement futur et notamment son attachement aussi à la République et cette vigilance par rapport à l'extrême droite qu'il aura toujours. Donc voilà. Eugène Vigo dans cette famille, puis il revient à Paris. Sa mère entre-temps meurt dans un hôpital psychiatrique. Cette méchanceté qu'elle manifestait à l'égard de son fils était liée aussi à des problèmes, à une maladie psychiatrique. Elle meurt à l'hôpital du Vinatier. Il vit seul, il a des rapports cordiaux avec son jeune beau-père, très jeune beau-père, hein, qui a 27 ans quand il en a 15, mais ils font ménage séparé. Lui vit dans des garnis, des chambres de bonne, avec quelquefois du travail, souvent pas de travail, donc dans une grande précarité. Il fréquente l'université populaire du Faubourg Saint-Antoine, qui est un lieu assez extraordinaire. C'est la première université populaire de Paris. Et il commet, en fait, un petit larcin à l'âge de 17 ans, car il souffre de la faim. Il est dans la situation de se faire expulser de la chambre qu'il loue, de la chambre d'hôtel qu'il loue. Il vient de trouver du travail, mais il doit attendre sa paie. Et le fils de ses patrons va dérober une pièce dans la caisse et lui remettre en disant tu la remettras quand tu seras payé. Larcin découvert, commissariat de police. Il explique sa situation à ses patrons qui sont un peu consternés d'avoir été le dénoncé. Ils retirent leur plainte, mais entre-temps, on a commencé à enquêter sur lui. On voit qu'il fréquente des réunions anarchistes, qu'il fréquente cette fameuse université populaire, ce qui n'était pas très bien vu. Oui, si je viens de le dire, oui. Mais en fait, l'université du Faubourg Saint-Antoine drainait beaucoup d'anars, oui, pas que, mais donc c'était déjà pas une référence de la fréquenter. Et donc, le voilà emprisonné à la Petite Roquette, une prison pour enfants qui se trouve à l'emplacement actuel du square de la Petite Roquette, et dont il reste que le portail aujourd'hui. Une architecture panoptique avec des tours et des passerelles.
Très cruel, très.
Et oui, enfin, on avait détruit la Bastille à deux pas de là, et c'était une sorte de Bastille, enfin des grandes tours. Et surtout, il y avait un régime qu'on appelait le régime philadelphien, qui était du nom de la prison de Philadelphie, qui était extrêmement cruel pour des adultes, mais plus cruel encore pour des enfants, puisque c'était la loi du silence total. Ils étaient enfermés dans des cellules isolées les uns des autres, donc avec aucune communication. Les repas étaient pris dans la cellule, le travail était effectué dans la cellule, la promenade était faite dans des minuscules courettes seules. Et quand ils traversaient un couloir, on leur mettait une cagoule pour qu'ils ne puissent pas voir leurs compagnons. Et donc, un nom sans prononcer une parole. Bon, alors la première fois, Vigo reste 2 mois là-dedans. Et il rumine. Et bien sûr, comme il est anarchiste, il rêve de la propagande par le fait, de mettre ses pas dans ce Dravachol et Milan rit. La période des attentats est proche. Hein. Ça s'est passé finalement 6 ans avant. Et il se promet de mettre une bombe, de fabriquer une bombe et de la poser chez le juge qui l'a envoyé en prison. Ce qu'il fait d'ailleurs. Lorsqu'il sort, il n'a que ça en tête. Il fabrique une petite bombe avec de la poudre de magnésium qu'il a pris à son patron. Et puis sa bombinette ne... Alors soit il a voulu faire un essai, il l'a posé dans les Vespasiennes de la place Voltaire, soit plus vraisemblablement... Il n'arrive pas à la déposer chez le juge, il s'en débarrasse et finalement elle explose même pas. Elle est retrouvée le lendemain par un passant, elle atterrit au service des recherches de la préfecture de police et là elle est posée dans une grande armoire à côté de plein de petites bombes semblables, souvent posées dans les toilettes. Il y a un dossier à la préfecture de police là-dessus, Vespasienne, bombe. Et en fait, beaucoup de jeunes anarchistes faisaient des essais dans les Vespasiennes, les chalets d'aisance, on disait aussi. Alors, bon, lui n'y pense plus à cette histoire, parce qu'elle n'a pas explosé, il est un peu vexé d'ailleurs, puis il passe à autre chose. Il fait la rencontre d'un garçon qui va beaucoup compter, Fernand Desprez, qui est un petit peu plus âgé que lui, qui est cordonnier, qui écrit dans Le Libertaire, et qui l'introduit dans l'équipe du Libertaire, où il commence à écrire des petits papiers. Bon. Et tout à coup, l'enquête suivant son cours doucement, lentement, plusieurs mois après, il est arrêté à son domicile pour cette fameuse bombe. Et alors qu'il s'agit presque d'un acte enfantin, c'est dans une petite boîte de cirage, enfin bon, totalement inoffensif, ça n'a fait évidemment qu'une victime, il est condamné à 1 an de prison à la petite roquette. Et là, c'est un séjour très dur, 1 an, à l'âge de 17 ans, sans prononcer une parole, jamais. Il en sort avec même des manques, enfin, des mots élémentaires comme tasse, table, ne lui viennent même plus en tête. Et il est tout de suite réintroduit dans les cercles anarchistes, mais il est terne, muet, mutique, bégayant lorsqu'il parle. Enfin, ça ne va pas durer longtemps. Alors, il est pris en main. Dans le milieu anarchiste, le poète Laurent Taillade s'est intéressé à lui pour ses idées et aussi pour sa beauté, puisque je dois dire ici que Miguel Almereda, Eugène Vigo, qui va prendre le pseudonyme de Miguel Almereda pour écrire dans Libertaire, était d'une grande beauté. Il a des yeux bleu-vert, très clairs, avec des cheveux noirs, très sombres et presque crépus, un teint mat. Il semble qu'il ait eu une lointaine origine haïtienne, ça j'ai pas pu l'établir, mais c'est une possibilité. Il est étonnamment beau, très, très fin, très souple, et il plaît aux hommes comme aux femmes d'ailleurs. Et Laurent Taillade est ému par sa beauté, il appelle les faibles aux yeux de gazelle, etc. Et donc il a comme ça beaucoup de bonnes fées qui se penchent sur lui, notamment Séverine, la grande journaliste Séverine, qui va d'ailleurs le prendre un peu en charge pour rétablir sa santé. Elle l'emmène dans sa propriété de Pierrefonds. Et le voilà lancé finalement dans le monde libertaire. On lui confie une rubrique qui s'appelle « Au hasard des chemins ». Et puis, c'est le moment où l'antimilitarisme est très très fort dans la classe ouvrière. À la suite de l'affaire Dreyfus, on a vu la nocivité de l'armée. Et donc... un mouvement antimilitariste s'est développé, d'autant plus que c'est le moment où l'armée sévit lors des grèves qui commencent à se développer, qui sont assez nombreuses, et il n'y a pas de force de répression à l'époque, sinon l'armée. Donc c'est toujours l'armée qui se retrouve face aux grévistes et qui fait des cartons, on peut dire.
C'est des conscrits.
C'est des conscrits. Et ils marchent, sauf en 1907, dans le Midi, où il y aura un mouvement de... Voilà. Donc, Almereda, finalement, se retrouve, à l'âge de 21 ans, secrétaire de l'Association internationale antimilitariste, qui est fondée à Amsterdam, qui regroupe des gens de plusieurs pays. Il y a des Portugais, Espagnols, Italiens, Londoniens et évidemment Hollandais. Il est le secrétaire de la section française avec Georges Yvetot, qui est alors le numéro 2 de la CGT, puisqu'il était, dirigeait la Fédération des Bourses du Travail, qui fusionne avec la CGT à ce moment-là. CGT qui a une couleur nettement anarchiste dans cette période. Et comme Yvetot est très pris par le syndicalisme, tout repose sur les épaules de Vigo Almereda. Et ils vont commettre un acte décisif qui va être la position d'une affiche dans les rues de Paris qu'on va appeler l'affiche rouge et qui est quand même d'une rare violence et qui appelle les conscrits à désobéir aux ordres et éventuellement enfin, à tourner contre leurs supérieurs, leurs armes, si on leur demande de tirer sur des, oui, sur des fusils.
Donc ils tirent, ils tuent des grévistes.
Des ouvriers, leurs frères
et dans le sud aussi,
de classe.
Il y a beaucoup de un climat et d'émeutiers. Enfin, il y a une répression féroce sur des émeutes qui sont...
Oui, alors là
c'est très violent,
on n'est pas encore aux émeutes du Midi, mais il y a eu à Limoges des morts, à Châlons, à la Martinique contre les coupeurs de canne à sucre.
Une chose peut-être qu'on n'a pas dite et qui peut être intéressante, c'est la richesse du mouvement anarchiste.
Ah oui.
Je vous cite, Tolstoïens, naturiens, sauvagistes, partisans des milieux libres, individualistes, inconditionnels de l'insurrection. Il faut voir que c'était très présent.
C'est difficile d'imaginer
à partir d'aujourd'hui, si on ne connaît pas cette période et ces choses-là, l'existence réelle de ces...
Alors,
il y a
énormément...
presse qui marche bien.
Ah oui, il y a plusieurs tendances et ils ont chacun leur presse. Donc, en gros, il y a la tendance anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire, c'est-à-dire là, ce sont des militants qui n'envisage le changement de la société qu'au moyen de la grève générale, qui nous ferait faire d'ailleurs l'économie d'une révolution. Il y a les insurrectionnalistes, fraction dans laquelle se place très vite Vigo Almereda, et les individualistes qui pensent que le changement commence aussi par soi-même, qu'on doit travailler à sa régénération et commencer à vivre en anarchiste, en créant des collectifs de travail, d'habitat, etc.
Donc tout ça fait un réseau social dans lequel, au fur et à mesure, il va se former, il va exister.
Alors
là, je vous laisse reprendre.
Alors, dans l'affiche, voilà, il y a cette phrase, quand même, qui est « Vous tirez, mais pas sur vos camarades, vous tirez sur les soudards galonnés qui oseront vous donner de pareils ordres. » Donc, c'est évidemment une phrase impardonnable, et les 28 signataires de l'affiche passent en procès. C'est un procès spectaculaire avec énormément de témoins de la défense. Jaurès vient les défendre notamment, et ils sont incarcérés, condamnés à une peine de prison, et Almereda écope d'une des peines les plus lourdes. Il est condamné à 3 ans ferme et il va purger sa peine à Clairvaux, à la centrale de Clairvaux. Mais c'est plus du tout, évidemment, l'emprisonnement de la petite roquette. C'est-à-dire, il se retrouve, ça devient une université. La prison est son université.
C'est un régime très, très libéral. Ils peuvent recevoir des livres.
Le régime réservé aux politiques. Ouais. Donc, ils peuvent recevoir beaucoup de visites et en même temps, et même pas dans un parloir. Hein, ils se touchent, ils s'étreignent. Sa femme, entre-temps, il a eu un petit garçon. C'est important à dire, puisque ce petit garçon, c'est justement Jean Vigo. Il l'a eu avec
1905.
Une camarade militante, Émilie Clairaut. Et elle le rejoint à Clairvaux avec son bébé. Elle loue un pavillon et pour pouvoir lui rendre visite tous les jours et amener l'enfant. Donc le petit Jean, finalement, voit son père à Clairvaux tous les jours. C'est là, entre les piliers de cette vieille abbaye, qu'il fait ses premiers pas. Et Almereda, ça va être pour lui des années de formation. Alors, il ne fera pas les 3 ans, parce que les peines étaient toujours lourdes pour des délits d'opinion, mais il y avait des grâces présidentielles, et là, il va bénéficier au bout de... J'ai plus les dates en tête, mais il va y rester un peu plus d'un an, pas plus. Et il va notamment là faire plus amplement connaissance avec un homme important qui va être son mentor un peu, Gustave Hervé. Gustave Hervé n'est pas anarchiste, il est socialiste et il fait partie du courant insurrectionnel de la SFIO, du PSU. Il fait partie de la Fédération de Lyon, qui est une fédération almaniste. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, c'est un courant qui croit à la fois à la grève et à l'insurrection, qui ne croit pas à la réforme, en fait. Mais il reste jusqu'au bout, enfin très longtemps, militant de la SFIO. Et Jaurès tient, d'ailleurs, à ce qu'il y ait plusieurs tendances dans la vieille maison, ce qu'on appelle la vieille maison. Et Gustave Hervé, il a un itinéraire, donc c'est un professeur d'histoire. Il vient d'un milieu très pauvre, il a perdu son père jeune, il est brestois, et il a été boursier, il a pu faire une classe préparatoire à Louis le Grand comme boursier, mais il a bénéficié d'un an de bourse. Donc après, c'est en travaillant comme surveillant, et à l'époque c'était 45 heures de travail, qu'il arrive à passer l'agrégation d'histoire, ce qui est remarquable. Et il est nommé dans Lyon, il fait partie donc de la Fédération de Lyon, et il écrit dans un journal qui s'appelle le Piou Piou de Lyon, qui est un journal extrêmement timitariste, et il est radié de l'éducation nationale pour cette raison, à cause d'un article où il parlait de mettre le drapeau dans le fumier. Alors évidemment, on a extrait une phrase de son article parce qu'il a un côté très républicain, Gustave Hervé. Et ce qu'il voulait dire, il protestait contre la célébration de la bataille de Wagram, bataille napoléonienne, boucherie napoléonienne, dit-il, qui salissait le drapeau glorieux de Valmy, le drapeau tricolore, qui aurait dû rester le drapeau de la Révolution. Bon. Enfin, on a retenu que cette phrase, le drapeau dans le fumier, et il a été radié. Et c'est quand même assez terrible parce qu'il avait passé 5 ans de sa vie à travailler dur pour obtenir la grègue. Il n'est en rien un héritier, lui. Et du coup, il a quand même une très bonne culture générale qu'il va transmettre à Eugène Vigo. Il est un peu moins, je crois. Un peu moins.
Et je recommande sa page Wikipédia aux auditeurs. Il va devenir fasciste,
non,
mais non antisémite. Enfin,
oui.
C'est ce que j'ai lu sur la page Wikipédia.
Oui,
mais... Il écrit à Hitler que son programme est bien, mais pas de tuer les Juifs.
Oui, mais là, c'est un peu un résumé rapide.
C'est un personnage, un vrai personnage.
On ne peut pas le réduire à cette fin de vie un peu. Bon, d'ailleurs,
il est très important pour vous.
Oui, de toute façon, c'est vrai qu'il a toujours été même philosémite et qu'il a toujours combattu l'antisémitisme. Donc ça, c'est quelque chose qui ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort en 1942. On peut lui en rendre grâce. Par ailleurs, bon, ce qu'il devient... Après la guerre de 14, c'est doit pas effacer ce qu'il a été.
Absolument pas.
C'était quand même un homme extrêmement courageux, parce qu'après avoir été professeur d'histoire radié, il fait des études de droit, qu'il fait en grande partie en prison, et il devient avocat, il est admis au barreau, et il va être radié du barreau. C'est incroyable. Alors, c'est dans ce séjour en prison avec d'autres révolutionnaires que naît l'idée d'un journal qui va être la guerre sociale. Et ce journal a comme projet de fédérer, parce que ce qui fait la désolation de ces militants, c'est le fractionnement de tout ce mouvement révolutionnaire intense qui n'arrive pas finalement à créer une synergie. Donc au moins créer un organe de presse qui donnera la parole aux syndicalistes révolutionnaires, aux anarchistes et aux... socialiste, insurrectionnaliste, socialiste révolutionnaire, qui appartiennent à la SFIO, mais qui croient à la révolution. Et ça marche, ce journal est le journal le plus subversif du temps. Lorsqu'il sort de prison, fin 1906, il met très vite le journal sort le premier numéro en décembre 1906.
La guerre sociale.
La guerre sociale, il a un très bon tirage.
On a oublié une petite chose, c'est qu'il choisisse une défense de rupture.
Ah oui.
J'ai trouvé ça formidable en lisant votre livre.
Ah oui, d'ailleurs, il y a...
C'est Vergès, quoi.
Dans mon livre, il y a énormément d'extraits de leur discours au procès.
Ils assument.
Et surtout,
ils assument publiquement.
Ce qui ne se fait beaucoup moins aujourd'hui, oui.
Et quand on suit un petit peu la politique au XXe siècle, quels que soient les courants, c'est quelque chose de très, très fort.
Ah oui, mais c'est extraordinaire. Ils revendiquent leurs actes et ils en rajoutent et ça leur vaut des années de prison supplémentaires.
Un accusé qui se plaint parce qu'il a été acquitté. Oui. Et que ça la fout mal par rapport à ses camarades.
Oui, mais...
C'est magnifique.
Ben, en plus, parce qu'il a été acquitté parce qu'il est âgé.
Parce que ma génération, celle des 68 ans, on n'a pas arrêté de se dégonfler. Et autant de souvenirs que j'ai, c'est autant de souvenirs de dérobades, de mensonges, de fuites. Très peu de gens se sont assumés, ou ont fait semblant, ou ont reculé au moment du passage à l'âge, etc. Tandis
alors
que,
là,
on a des gens qui s'assument complètement.
Et ça fait des procès spectacles, parce que...
Bien sûr, c'est formidable, c'est Vergès.
Ils ont une éloquence extraordinaire, et ces garçons, à part Gustave Hervé, ces garçons n'ont pas dépassé la scolarité primaire obligatoire. Aucun. Et ils ont une prose, une éloquence, mais fabuleuse. Et il y a un moment, il y a Garnery, qui est un ouvrier du bâtiment, qui est dans le procès de l'affiche rouge, et il dit, il explique qu'il est contre l'armée, et il dit, mais pourquoi j'irais dégommer des Prussiens ou il y a encore des expéditions ou des Marocains, il y a assez de types à dégommer ici, dit-il en désignant les jurés.
C'est très marrant, j'étais à mon service militaire, j'étais à Cologne, j'ai dit ça, j'étais convoqué par le commandant, et j'ai dit ça au commandant, j'ai pris 2 jours de cachot. J'étais 2 jours d'eau cachant pour dire, je suis belge, que je ne voyais pas pourquoi je défendrais la Belgique. Je ne connaissais évidemment pas ce genre de mouvement. Et c'était quand même exceptionnel, quoi. J'avais une réputation de provocateur. On a très peu vu. Ces gens avaient la paix. Enfin, la situation n'était pas la même. Quoi. Mais,
non, il y a un mouvement social très fort. Alors, donc, Almereda devient Almereda Vigo. Vous comprenez, quand je dis Almereda, c'est le même personnage, Miguel Almereda, qui est né Eugène Vigo. Donc, Almereda devient...
Il y a un côté dandy, hein, c'est le titre du livre, et Almereda, c'est le côté dandy.
Le secrétaire de rédaction de la guerre sociale. Et c'est un excellent secrétaire de rédaction. Alors, il a moins, et j'ai pas pu... Enfin, j'ai lu tout ce qu'il a écrit... Il n'écrit pas formidablement bien. En revanche, il a le sens des formules extraordinaires. Tout ce qu'il faut à un secrétaire de rédaction. Trouve-la. Il manie la titraille comme de la dynamite, on peut dire. Et ça donne la pêche de ce journal, enfin son éclat.
Il y a beaucoup de grands artistes de l'époque qui leur font des couvertures.
Oui, alors, bien sûr.
Stalman, Valentin.
Bien sûr, absolument. La plupart des grands dessinateurs d'époque étaient Anard. Voilà. Et puis, alors, il y a Grandjouan, qui est très très proche de Grandjouan. Il est même intime avec Almereda. Et puis, il y a, par exemple, j'ai découvert, en faisant mes recherches, que Apollinaire était abonné à la guerre sociale, du premier au dernier numéro, puisque sa collection est d'ailleurs à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Puisque
il y a une photo où il est avec la guerre sociale.
Et voilà, oui, parce qu'ils ont fait un moment une campagne de pub avec des gens. Et Marie Curie le lisait. Elle fait poser ses petites filles avec... la guerre sociale. Donc voilà, ça avait un rayonnement très large, très militant, mais aussi l'élite. Oui, peut-être plus, même je ne me rappelle plus.
C'est l'autre qui fait 200 000, je crois. Je viens de voir le chiffre, c'est 50 000, mais je peux me tromper.
Ce qui est pas mal quand même, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'autres journaux. Alors c'est un hebdo, hein. C'est pas un quotidien, c'est un hebdo. Et Almereda, donc, va ensuite. Pendant toutes ces années, il y a le désir de passer d'un organe de concentration révolutionnaire à un parti de concentration révolutionnaire, c'est-à-dire fonder un parti révolutionnaire dans lequel cohabiteraient les anarchistes, des syndicalistes révolutionnaires et des socialistes. Mais en fait, ça va être un échec. Les anarchistes sont très jaloux de leur indépendance. Ils ont peur d'être manipulés par ceux qui leur apparaissent comme des blanquistes. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'Almereda, Hervé surtout, sont blanquistes. Ils croient à la force des minorités agissantes, ce qui n'est pas quand même la représentation que les anarchistes font de l'insurrection. Il y a les syndicats israéliens qui ne jurent que par le syndicat et qui pensent qu'on n'a pas besoin d'un parti en plus du syndicat. Pas vraiment Proudhon, parce qu'ils sont pour une grève générale plus que pour des réalisations, mais ils pensent que c'est l'œuvre du syndicat. Et un parti, c'est toujours ennuyeux, parce que c'est comme un organe de collaboration de classe, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça qui réprouve. Et puis les socialistes, même très à gauche du parti, répugne à quitter une formation puissante quand même, qui existe depuis longtemps, pour s'inscrire dans une aventure incertaine, qui fait que, avec tous ces atermoiements, c'est un échec. Bon, entre-temps, il y a eu deux affaires importantes pour lesquelles Almereda a joué un rôle majeur. Il y a l'affaire Ferrer et l'affaire Liabeuf. Alors Ferrer, c'est un pédagogue espagnol, un catalan, qui, à la suite d'émeutes survenues à Barcelone contre l'envoi de troupes au Maroc, l'envoi de troupes de réservistes d'ailleurs barcelonais au Maroc, c'est le moment où le Maroc est la proie de plusieurs impérialismes qui se le disputent. Il y a les Espagnols, les Allemands, les Français, aussi les Anglais. Il y a des émeutes terribles, hein, qui font beaucoup de morts. Il y a énorme. Tous les couvents sont incendiés parce que l'église est de mèche avec l'armée. Donc il y a. Barcelone est un vrai brasier avec un nombre incroyable d'églises et de couvents incendiés. Et Ferrer, qui vit en Angleterre mais qui était au passage à Barcelone, est accusé d'avoir fomenté toutes ces émeutes, d'être le chef. Donc il est condamné à mort et il y a toute une campagne pour le sauver, une campagne internationale. Il y a même des manifs en Australie, partout dans le monde. Et finalement, il est exécuté très vite dans la foulée du procès et il va y avoir une nuit d'émeutes à Paris incroyable où toutes les rues autour de l'ambassade d'Espagne, boulevard de Courcelles, etc. sont dépavées par les terrassiers qui mettent les conduites de gaz à nu, qui les percent et qui les enflamment, qui incendient les réverbères. Il y a je ne sais pas combien de tramways brûlés. Enfin, c'est vraiment une nuit d'émeute. Et Almereda est évidemment tout à son aise. Voilà.
Au premier rang.
Au premier rang. Mais ce qui va se passer, c'est que le Parti socialiste va demander l'organisation d'une deuxième manifestation qui serait négociée avec les autorités pour protester contre la mort de Ferrer. Et en fait, les syndicalistes sont aussi d'accord avec ça et la guerre sociale participe à l'organisation de cette deuxième manifestation car selon eux, il y a effectivement des manifestations émeutières, etc., mais il faut aussi parfois montrer le nombre, et ce qui n'est pas faux. Et donc là, il s'agit de montrer que le peuple parisien est hostile à l'exécution de Ferrer. Et donc, il y aura une très grande manifestation de 100 000 personnes qui vont défiler entre deux cordons policiers. C'est la première manifestation organisée en France, alors que les manifestations étaient de fait interdites. Enfin, il y avait tout de suite répression. Et le premier service d'ordre de l'histoire des manifestations en France. Et Almereda fait partie du service d'ordre. Et ça va lui valoir un certain nombre d'inimitiés de la part des anarchistes. Voilà. Et ce sera le début, comme ça, de. Alors certains diront une dérive, hein. Moi je dirais une évolution vers le réformisme, finalement. Mais peu de temps après, il y a l'affaire Liabeuf. Alors là, c'est. Il y a une mobilisation pour sauver un tout autre personnage. C'est simplement un petit cordonnier qui n'a même pas d'idée politique arrêtée, qui a fréquenté une jeune prostituée et qui a été accusée à tort de proxénétisme, qui a été mise en prison et interdit de séjour et qui, pour se venger de l'injustice qui lui a été faite, tue un policier, en blesse grièvement un autre. Et il a, enfin, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il a utilisé ses instruments de travail pour Il a confectionné des brassards de cuir, avec le cuir de sa profession, où il est cordonnier. Il les a parsemés de clous de cordonnier, la semence du cordonnier. Il a pris son stylet de cordonnier qui sert à couper de cuir. Il s'est enveloppé d'une pèlerine et il est parti à la recherche des agents des mœurs. Et au moment où il s'empare de lui, il se pique les bras. Et lui, il utilise son tranchet et aussi un pistolet. Et il est condamné à mort. Et son procès va être le procès, finalement, de la police des mœurs. Hein. Et il y aura encore Jaurès pour venir témoigner. Sa police des mœurs faisait des ravages. Enfin, on a du mal à se représenter, mais n'importe quelle femme circulant nuitamment pouvait être arrêtée, contrôlée, voire envoyée à Saint-Lazare et fichée comme... Donc c'est arrivé à plusieurs ouvrières et à un moment, cette année-là, il y a deux bavures puisqu'on arrête des jeunes filles bourgeoises finalement, et dont l'une qui a 14 ans qui est avec sa bonne. Et ça fait, évidemment, il y a toute une campagne de presse contre la police des mœurs et la guerre sociale va se lancer dans cette campagne et va beaucoup faire pour Liabeuf, à tel point que Hervé va être condamné à 5 ans de prison pour avoir pris sa défense, parce qu'il il exalte le geste de Liabeuf, tueur de flics, et on l'accuse d'inciter à la haine et au meurtre des policiers. Il va faire 5 ans de prison. Alors, tous ces hommes, en fait, ont passé beaucoup trop de temps en prison. Et je dirais, concernant Almereda, mais Hervé aussi, que ça les a un peu coupés du mouvement.
Ils sont un peu décalés. À 34 ans,
oui.
Il faut bien voir ça.
Oui, mais aussi par rapport à son évolution, il y a un moment, ils sont en décalage avec le mouvement, parce qu'ils sont tout le temps en prison, finalement. Alors même si en prison, ils arrivent à passer des articles, reçoivent des visites, mais ce n'est pas la même chose exactement. Et il y a aussi une lassitude, parce qu'on a beau être stoïque, c'est quand même... Vigo a fait un nombre incalculable de mois de prison, entre l'âge de 17 ans et sa mort en prison à l'âge de 34 ans. Ça peut expliquer aussi une tendance vers le réformisme. Il y a un moment où il y a la grève des cheminots, dans laquelle ils mettent beaucoup d'espoir, qui finalement est un échec magistral. Et la grève des cheminots, c'était le point fort de la grève générale. C'est-à-dire, on pensait qu'en supprimant les flux, on stoppait obligatoirement toute la production. Et là, au bout de 8 jours, ils reprennent, et ils reprennent en ayant perdu. Et Hervé perd foi dans les capacités révolutionnaires du peuple français. Et du coup, il va y avoir une lente évolution vers le réformisme. Et ils vont, être très, très... Enfin, Almereda, surtout, va être confronté à une véritable haine de ses anciens camarades. Dès qu'il se produit dans un meeting, on l'attaque physiquement. À un moment, il manque de perdre un œil. Et évidemment, quand on est traité comme ça, on s'enfonce dans
la délégation. Et alors,
oui.
Il faut parler du bonnet rouge, là.
Voilà. Donc, finalement, il adhère au Parti socialiste, ainsi que tous les anarchistes de la guerre sociale. Bon, je ne peux pas parler de tout le monde, mais il y a Eugène Merle, il y a Francis Jourdain.
C'est un livre très riche, hein, lisez-le.
Et donc, le voilà au Parti socialiste, puis il va se rapprocher, en fait, des radicaux socialistes. Il va être pour un front commun, une union de la gauche en vue des élections de 1914, qui réunirait donc radicaux socialistes et socialistes. Alors là, c'est la fin de tout. Il crée un organe de presse, parce que ce qui se passe aussi avec Almereda, c'est qu'il a véritablement le goût du journalisme. Il est devenu journaliste parce qu'il était militant, mais il y a un moment où le goût du journalisme l'emporte chez lui sur le militant. Et il fonde un journal très beau, d'ailleurs, tant qu'il reste hebdomadaire, c'est le Bonnet Rouge, très richement illustré, avec beaucoup de pages culturelles. Et il en fait un quotidien, beaucoup moins intéressant, d'ailleurs, en avril 14, ça devient quotidien. Et il se lance dans un soutien un peu effréné à Joseph Caillaux, finalement.
Ils vont tirer à 200 000.
Le chef du Parti radical socialiste. Alors, concernant Joseph Caillaux, il y a une anecdote que beaucoup de gens connaissent, mais c'est quand même intéressant. C'est qu'il est la cible de l'extrême droite, notamment parce que c'est un grand bourgeois, pas spécialement sympathique, mais il a un projet d'impôt sur le revenu. et qui n'existait pas encore en France. Alors ça lui vaut la haine féroce de la bourgeoisie, du Figaro, mais aussi de l'action française. Et il est constamment insulté dans les pages du Figaro. Oula. Et donc, on va jusqu'à utiliser sa correspondance privée. Du coup, sa femme s'arme d'un Browning qu'elle cache dans un manchon de fourrure. Elle se fait déposer en taxi dans les locaux du Figaro. Elle demande d'avoir le directeur qui accepte. Évidemment, c'est quand même la femme de Joseph Caillaux, qui était président du conseil, qui accepte de la rencontrer. Et elle lui tire dessus, sans sommation, et elle le tue. C'est Calmette. Donc voilà. Donc bien sûr, Madame Caillaux est arrêtée, jetée en prison à Saint-Lazare, et Miguel Almereda va la défendre son geste. Et, voilà. Et évidemment, Caillaux, du coup, crache au bassinet, enfin alimente, il est très riche, de la caisse du bonnet rouge. Alors voilà le bonnet rouge lancé, et puis survient la guerre de 14. Alors bien sûr, jusqu'au bout, Miguel est pacifiste, c'est un grand mot, contre la guerre. Et il y a des manifestations contre la guerre jusqu'au bout. Le fait, c'est que ne pas participer au conflit, répondre par une grève générale, c'est assez compliqué. D'abord parce qu'on a vu que la grève générale, elle ne prenait pas même en temps de paix. Il y a eu plusieurs échecs. D'autre part, les Allemands, le Parti des Allemands ne fait rien. Et ils votent même, la plupart des militants, sauf Karl Liebknecht, ont voté les crédits de guerre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse l'armée allemande déferler sur la France? D'autant plus que l'Allemagne, sans sommation, envahit la Belgique, qui est pays neutre, sans même lui déclarer la guerre, et commet des exactions. Enfin, moi, je me suis penchée sur le déroulement de la guerre. J'ai appris des choses que j'ignorais totalement. Il y a eu 5000 civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, massacrés en Belgique. Ça a été quand même terrible. Et donc, il y a des flux de réfugiés. La population belge fuit vers la France. Donc, ça entretient cette idée d'une armée vraiment menaçante, criminelle, qui campe bientôt à 25 km de Paris. Et donc, il y a un mouvement pro-guerre qui se développe et qui touche à peu près toutes les composantes du mouvement ouvrier, syndicaliste. Je dirais pas ça, parce qu'il se rattache aussi à la Grande Révolution, qui était une révolution patriote, à la Commune, qui a partiellement été un mouvement patriotique hein, aussi. Je dirais plutôt patriote que nationaliste. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse Paris envahi par l'ennemi? Donc, alors lui, Almereda, plutôt pour faire des corps de francs-tireurs, de son côté. Mais c'est une assez mauvaise idée, parce que justement... Les corps de francs-tireurs sont responsables de beaucoup d'exactions contre les civils, puisque toute la population civile devient ennemie. Donc l'idée plutôt de rejoindre l'armée. Mais lui, en fait, il a une santé extrêmement fragile. Il est d'abord d'une maigreur extravagante et il est réformé. Il a été réformé à plusieurs reprises.
Et il se drogue.
Oui, alors pas encore, là, c'est plus tard. Mais donc, il est réformé et il demande à être incorporé. Enfin, je ne pense pas qu'il fasse des efforts surhumains pour l'être. Mais de fait, on lui dit, Malvy, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, un jeune ministre de gauche, enfin, qui est radical socialiste, mais d'idées avancées, lui dit, votre place est plutôt à Paris, vous serez plus utile là, etc. Bon. Et donc, pendant la guerre, disons jusqu'en 1916, il est sur une ligne, oui, patriote. Et puis, ça va se transformer. À partir de 1916, la guerre s'éternisant. Oui, voilà. Il devient de plus en plus hostile à la guerre et donne la parole. Le bonnet rouge ouvre ses colonnes aux voix pacifistes, notamment celle de Romain Rolland, qui vit en Suisse et qui est le diable pour l'action française, mais même pour de larges fractions de la sphère politique. Donc, il est très censuré, d'ailleurs, pendant cette période, le bonnet rouge. Il y a Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer ce qui va causer sa mort et tout ce scandale.
Mais non.
C'est que voilà,
il
est alimenté voilà, par alors, d'abord les bistrotiers, c'est-à-dire il court après l'argent tout le temps. Et il y a un certain Marion qui fait partie du syndicat des
vins
de
et alcool. Il va avoir du personnel.
Tout à la fin. Tout à la fin. Bon, il a eu une maîtresse, donc c'est pas.
Non, mais ça fait des frais. Ça fait...
Il est pour l'amour libre, donc.
Il a deux bonnes, un cuisinier.
Oui,
un
mais
chauffeur,
ça, c'est un peu. Oui, mais ça, c'est une toute petite période de sa vie. Hein. C'est quelques mois. En
fait. C'est très beau.
C'est. Alors, pourquoi j'ai appelé mon livre émotionnaire et Dandy? C'est qu'il a toujours eu du goût pour la toilette, même quand il était extrêmement pauvre. Il était capable de ne pas manger pendant 3 jours pour avoir une belle chemise, et aussi pour aller au théâtre. Et il avait du goût pour les arts. Il était toujours dans tous les rapports de police, même quand il est pauvre. Il est suivi, il se déplace à bicyclette pour faire ses conférences, et on note à chaque fois son joli canotier, son élégance. Il était élégant, et bon, il aimait la toilette. Donc, là, il va goûter à l'argent. Il n'a jamais été riche. Quand il était journaliste à la guerre sociale, il avait un salaire décent, qui était l'équivalent, disons, d'un très bon salaire ouvrier. Donc, ça lui donnait un train de vie correct, c'est-à-dire qu'il pouvait payer un loyer pour un deux pièces à Belleville et qu'il pouvait manger à sa faim tous les jours. Guerre plus. Mais avec le bonnet rouge, il va goûter à l'argent. Alors, il est alimenté, effectivement, par le syndicat des vins. C'est un très piètre gestionnaire. Alors, Eugène Merle, qui avait été à la guerre sociale, au libertaire, puis à la guerre sociale avec lui, était devenu l'administrateur du bonnet rouge, mais Eugène Merle est mobilisé. Il part sur le front. D'autre part, il était hostile à la transformation de l'hebdo bonnet rouge en quotidien. Donc, de toute façon, il a pris des distances. Et en fait, Almereda ne sait pas gérer un journal. C'est n'importe quoi. Il mélange ses comptes personnels et les comptes du journal. Il a des dettes partout. Et il va se faire mettre un peu le grappin dessus par des gens qui sont des administrateurs, eux, de société, et qui, tout en alimentant les caisses du journal, prennent un peu de pouvoir dedans. Et là, c'est assez trouble, en fait, parce qu'il a... Il a quand même beaucoup d'argent. D'où vient cet argent, on ne sait pas. Et il est accusé très vite par l'extrême droite, ses vieux ennemis de l'Action française, d'être un espion, en fait. Et il donne même son code, LB, je ne sais quoi, et en disant que l'Allemagne subventionne le bonnet rouge pour démoraliser les Français, faire une campagne pacifiste, etc. Et les rumeurs enflent. Lui, de son côté, attaque avec une hargne incroyable l'Action française à longueur de colonne, en les accusant de souhaiter la défaite de la France pour pouvoir remettre le roi sur le trône. Donc c'est une guerre entre eux. Et alors qu'il y a eu un moment, lors des premiers emprisonnements d'Almereda, un moment où jeunes royalistes et jeunes révolutionnaires ont un peu fraternisé en prison, mais dans la geôle, pour se battre pour leurs droits élémentaires, etc. Il y avait une estime réciproque, mais qui très vite est retombée avec l'affaire Ferrer, où les cartes se redistribuent, on retrouve le vieux camp anti-Dreyfusard, républicain anti-républicain. Donc l'affaire Ferrer, heureusement, voilà, oui. Et alors Almereda, donc, se retrouve accusé d'espionnage, et sur la pression des militants d'extrême droite, de l'Action française, se retrouve emprisonné en 1917, accusé d'avoir détenu des documents relatifs à la Sûreté nationale, et d'autres membres du bonnet rouge sont accusés d'avoir touché de l'argent allemand. En effet, il y a un chèque d'un banquier allemand qui s'appelle Marx, d'ailleurs.
Oui, c'est incompréhensible, cette histoire-là.
Qui est retrouvé. Bah alors, c'est vrai que ce type était en train de liquider une société franco-allemande. C'est un peu logique qu'il touche un chèque, mais bon. On ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'Almereda se retrouve à Fresnes. Il est très malade à ce moment-là. Il est très dépendant de la morphine qu'il prend depuis plus d'un an pour soulager ses douleurs, car il a une sorte d'appendicite chronique. Il souffre de calculs rénaux qui le font, mais imaginez qu'il n'y a pas d'antalgique à l'époque. Donc de toute façon, c'est la morphine ou rien. Ce qui a créé...
C'est l'héroïne aussi que Bayer vient de sortir
oui.
dans le commerce.
Ah oui, et Bayer a sorti des sirops à l'héroïne qui sont même recommandés pour les enfants d'ailleurs, que lorsqu'ils toussent. Bon. Et il est devenu très dépendant aussi de ces drogues. Et il se retrouve à Fresnes. Alors lui qui vivait sur un pied... C'est incroyable, bon, mais qui était aussi un peu banal. Hein, dans une vie comme un directeur de quotidien qui marche bien. C'est-à-dire il a une villa à Saint-Cloud, oui. avec du personnel, etc.
Un bon quotidien.
Voilà, sur les 6 derniers mois de sa vie, en fait, pas plus. Et il est incarcéré à Fresnes. Et là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais il est retrouvé mort très peu de temps après son incarcération. À l'infirmerie de Fresnes. Et il est étranglé, ça c'est sûr, il a des traces de strangulation. Alors, ça peut être un suicide, assez compliqué à réaliser en position allongée. Un assassinat, pourquoi ? Alors, il y a évidemment l'Action française dit tout de suite, vous voyez, ils ont liquidé l'espion Vigo, mais derrière Vigo, il y a Caillot qu'il allait dénoncer, etc. Donc, toutes les théories complotistes de l'Action française, qui sont en partie reprises, même à gauche, pour dire. Ah, on a assassiné Almerdin, etc. Bon, en fait, moi, je ne choisis pas de version.
Il a son autopsie, donc il est complètement pourri à l'intérieur.
Ah oui, il a un litre de pus
il
dans
a
l'abdomen.
Pas besoin, il était mourant.
Il était
physiquement.
Mourant. Il était mourant, oui. Qui l'aurait assassiné, surtout si on pense qu'il a été assassiné.
Ça va être le problème de Jean Vigo.
Oui, alors, si on dit qu'il a été assassiné, ça veut dire qu'il était réellement un espion et qu'il savait des choses et qu'il avait des complices.
On n'a pas dit sur son fils qu'il aimait beaucoup son fils et qu'il s'en est beaucoup occupé,
oui,
qu'il l'emmenait dans les...
Ah,
c'est quelqu'un d'important pour le fils. Et
ah,
le fils
oui.
va mourir jeune aussi.
Oui.
Mais son père a une place mythique très importante dans la vie du fils.
Évidemment.
Et le père est fusionnel avec le fils. Il l'emmène avec lui, il s'en occupe beaucoup.
Oui, alors, dans les meetings, il a son petit poupon sur les bras, des biberons dans ses poches, c'est assez inhabituel. À l'époque,
c'est
pour un homme.
Surprenant.
Oui, d'ailleurs, Almerdin n'était pas du tout un macho. Non, non, du tout. Il n'était pas du tout antisémite non plus, je souligne, parce que c'est assez rare à l'époque. Aussi bien à gauche, à droite, on n'en parle pas, mais à gauche, il y avait quand même beaucoup de troubles par rapport à ça. Lui, il est très clair par rapport à ça. Il a des qualités certaines d'ouverture d'esprit. Alors, en fait, Jean. Va être, ça va être évidemment un désespoir terrible. Il a 12 ans. Il va être pris en charge par Gabriel Aubès, l'homme providentiel de la famille Vigo, qui va faire venir le petit à Montpellier où il est établi comme photographe et le placer en pension aussi pour le protéger et sous un nom
faut rappeler que c'était
d'emprunt.
Le compagnon de la mère
d'Almerdin qui s'était occupé d'Almerdin et qui va ensuite s'occuper de Jean. Voilà. Et la haine qui s'exprime contre Almerdin est tellement démente que le petit est en danger et peut être la cible de n'importe quel patriote excité. Là, je ferai un raccourci qui n'a rien à voir, mais on sait que le fils de Gudrun Enstein, militante de la RAF, avait été agressé à l'acide par un. Voilà. Donc on a peur pour lui, et c'est le fils du traître Vigo, c'est une cible. Et donc, il est inscrit sous le nom de sa grand-mère paternelle dans un pensionnat à Millau. Donc, Jean va grandir, va devenir le grand cinéaste que l'on sait. Il est malade, il est atteint de la tuberculose et dès l'âge de 20 ans, il fait des séjours en sanatorium. Et il va avoir comme idée fixe de réhabiliter son père, mais surtout de faire connaître toute la vie de son père dans toutes ses facettes. Parce que pour qu'il ne soit pas réduit à ce qu'il a été dans les derniers mois de sa vie. Et il a écrit des lettres pour enquêter à tous les gens qui ont connu son père, lesquels lui ont répondu, et j'ai eu accès. Toutes ces lettres ont été conservées par Luce Vigo, la fille de Jean, qui a perdu elle aussi son père très jeune, à l'âge de 5 ans. Et Luce étant décédée, Luce Vigo, par ses enfants, donc, son fils m'a confié tous ces documents qui m'ont permis de retracer notamment l'enfance et la jeunesse qui étaient mal connues. L'enfance était très mal connue et c'est des documents très, très précieux
Donc Révolutionnaire et Dandy de Anne Steiner au Bonnet Rouge. Vous n'écoutez peut-être pas Steiner.
Steiner.
L'échappée, aux éditions de l'échappée. Fortement recommandé par La vie est un roman. Je vous laisse conclure, je crois qu'on a encore 4 minutes. Donc voilà, on revisite toute une époque de façon formidable, extrêmement riche, avec toute sa richesse.
Au-delà du portrait d'un homme,
oui,
c'est
on
le...
On a toute la lutte des classes à cette époque.
C'est le portrait, oui, de...
On n'a pas dit, on a de pas la dit gauche, un seul mot sur la fondation du Parti communiste en 1920, qui est un tournant. Bon, il y a la révolution russe de 17,
oui.
Et puis il y a la fondation du Parti communiste qui explique la fin de l'anarchisme, de la richesse de l'anarchisme.
Oui, qui va phagocyter un peu le mouvement ouvrier, en fait. Et ça sera aussi la fin du syndicalisme révolutionnaire, qui était vraiment extrêmement riche et intéressant. Quand on pense à la densité des conflits, il y avait plusieurs centaines de grèves par an en France. Il y avait des centaines de milliers de grévistes presque chaque année. Il y a eu des mouvements insurrectionnels comme celui des viticulteurs du Midi. Enfin, voilà, c'était...
C'est une longue histoire qui remonte loin dans le 19e siècle. Si on prend l'agitation des typographes dans l'est de la France, par exemple, on va remonter jusqu'à 1800.
Mais là, c'est vraiment des grèves massives. Voilà, cette période, elle se caractérise par des grèves massives. Les boutonniers de Méru, par exemple, de tous les secteurs d'activité, les métallurgistes, les dockers, tous les secteurs. Et les femmes sont très actives dans les grèves. Elles ne représentent pas un grand nombre des effectifs syndicaux, mais elles sont très actives dans les grèves. Alors, le syndicalisme est très, très actif. Il y a peu de militants, mais... En fait, ils arrivent, c'est des ferments d'agitation. Ils se déplacent constamment d'une ville à l'autre. Et des fois, à la suite d'une conférence, il y a 300 adhésions à la CGT. Et dans les semaines qui suivent, une grève. C'est le cas à Raon-l'Étape, par exemple, qui fabriquait des usines de feutres qui employaient plusieurs milliers d'ouvriers et surtout d'ouvrières, lesquelles n'étaient pas... politisé. Il y a Gabrielle Petit, une femme remarquable, qui était une syndicaliste qui pensait que la femme ne pouvait s'en sortir que par le travail et l'agitation syndicale. Et elle vient faire une conférence une semaine après, la ville est à feu et à sang, en grève, etc. C'est vraiment une période exaltante. Que je donne un peu à
voir. C'est très très riche. Donc on a une espèce de presse très vive avec justement par exemple qui rallie beaucoup d'artistes absolument géniaux. On n'est pas dans l'art pour l'art. C'est pas,
ah oui.
Si on prend par exemple
Delannoy.
Félix Fénéon comme personnage qui va assumer les lanceurs de bombes, etc. C'est une histoire. Donc on a ces journaux formidables et puis tout ce,
alors,
ces mouvements de masse. Et le Parti communiste va tomber là-dessus comme une chape de plomb.
Oui. Et les dessinateurs font des années de prison. Aristide Delannoy, qui a un talent extraordinaire.
Enfin, on change de paradigme
totalement. Exactement. Voilà, voilà. Alors ça mettra un peu de temps à devenir.
Ah non, ça va mettre 40 ans.
Mais en 2-3 ans déjà, la note est donnée. Ouais, ouais.
Non, mais il y avait quand même une marche encore de. Enfin, je ne sais pas, non, c'est pas ça. Si on lit Nizan et Sartre, etc., avant-guerre, c'est déjà très. Enfin, c'est déjà très glauque.
Ah, ben bien sûr.
C'est pas qu'on puisse dire.
Ben oui.
Non,
d'ailleurs, toutes les voix dissonantes sont étouffées. Là, récemment, on a.
Il faut qu'on conclue. Je crois qu'on est à une minute de la fin. Merci d'être venu. C'est formidable. J'espère que tout ira bien. Je mettrai tout sur le podcast. Je pense qu'on a une heure. J'espère que je ne me suis pas planté.